Vous écoutez
RMC. RMC, le ring des GG.
La planète Ovalie a été traversée par plusieurs sujets cette semaine relatifs à son existence, ou à minima à son évolution. Le projet R360, une super ligue rebelle imaginée par des anglo-saxons pour créer, selon eux, une version plus excitante du rugby pour conquérir une nouvelle génération de fans. Ce projet, s'il va au bout, choquera avec notre top 14, un rugby des clubs en France, critiqué de certaine façon par Antoine Dupont pour ses règles du salary cap attachées au droit d'image. C'était cette semaine. Les GG, je vous pose la question. Projet de Super League, remise en cause du salary cap. Le rugby est-il obligé de faire sa révolution? J'ai deux noms, Simon Dutin, Denis Charvet. J'ai deux oui, les deux Fred, Fred Weiss et Fred Le Canu. Sur le compte X des Grandes Gueules du Sport, c'est très partagé. Vous êtes 51% à dire non, le rugby ne doit pas faire sa révolution. Donc pour l'instant, Denis et Simon, vous faites la course en tête. Envoyez vos messages sur le WhatsApp au 06 12 424 424 et on vous attend au 32-16. Avant d'en débattre, c'est un sujet très complexe. Il faut d'abord tout comprendre et pour tout comprendre, on a le professeur, pour ne pas dire le chef, le patron, Wilfried Templier, qui est avec nous. Salut Will.
Salut les enfants.
Salut, ouais.
Messire.
Salut les kids. Bon, on va essayer de faire quelque chose de très pédagogique. On a parlé beaucoup de choses là en préambule. Déjà, le projet R360, c'est quoi?
Alors c'est un projet de ligue dissidente, on va dire, hein, lancé par des Anglais, dont l'ancien international Mike Tyndall, qui veut recruter, on va dire, les meilleurs joueurs du monde, les payer très cher, et les répartir dans 8 équipes masculines et 4 féminines, des équipes basées à Londres, Miami, Tokyo, Dubaï, Boston, à Lisbonne ou Madrid, qui joueraient dans des grands stades. On parle du Camp Nou, on parle de Tottenham, de Los Angeles. L'actionnaire de ce projet viendrait des Émirats Arabes Unis et vendrait chaque franchise 30 millions d'euros avec un objectif d'une première saison lancée entre avril et septembre 2027.
Est-ce que le projet, celui que tu nous présentes là, a des chances d'aboutir et est-ce que des joueurs français sont intéressés?
On se dit quand même qu'il devrait avoir beaucoup de mal à recruter les meilleurs joueurs de la planète, dont ce projet a besoin, hein, pour exister, parce que les fédérations ont déjà menacé les joueurs qui seraient tentés en expliquant qu'ils ne seraient plus éligibles aux équipes nationales respectives. Ce projet a besoin de l'aval de World Rugby aussi, qu'il n'a pas pour le moment. Pour bénéficier de structures, on pense notamment tout simplement les arbitres de haut niveau. Est-ce que des joueurs sont intéressés? Peut-être, mais quels joueurs? Dans son document interne, le R60 utilise l'image d'Antoine Dupont, mais son entourage nous a indiqué que le capitaine des Bleus n'avait rien à voir avec ce projet. Enfin, beaucoup de présidents de Top 14 nous ont indiqué que c'était un non-sujet, je cite, un non-sujet, qu'ils en parlaient peu entre eux et encore moins avec les joueurs.
Alors Antoine Dupont, tu en as parlé il y a quelques instants, lui, il a poussé un petit coup de gueule cette semaine sur l'encadrement de la masse salariale, le salary cap et en tout cas les droits à l'image qui sont adossés avec. Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que dans cette période où le top 14 a le vent en poupe économiquement, affluence et téléspectateurs toujours en hausse notamment, un joueur de rugby du top 14 peut avoir des sponsors personnels, mais il ne faut pas que ce sponsor soit aussi un partenaire de son club. Sans quoi, eh bien cette rétribution est prise en compte dans la masse salariale de l'équipe, qui est, vous le savez maintenant, encadrée par un salary cap et doit pas dépasser 10,7 millions d'euros. Ça peut donc restreindre ses indemnités. Ça vient du fait que par le passé, certains présidents ont déguisé des salaires avec des sommes payées par des sponsors ou des avantages en nature, bien loin des circuits officiels, hein, vous comprenez. Tout ça pour contourner le salary cap. Je te donne un moindre salaire, mais tu vas t'y retrouver sur un compte à l'étranger avec une jolie maison en Afrique du Sud, par exemple. Vous avez compris, on baisse le salaire, on gonfle le partenariat. La Ligue nationale de rugby évoque cette semaine un principe de transparence. Il y a beaucoup plus de contrôle aujourd'hui, notamment sur le patrimoine des joueurs. Donc, quand ces joueurs, d'un autre côté, font tout de même tourner cette machine, hein, ce sont eux les ambassadeurs de ce sport, eh bien, ils se disent qu'ils doivent optimiser en plus leur courte carrière. Et c'est un manque à gagner pour eux, même si là, on parle surtout des internationaux.
Merci, Will. C'était parfaitement clair. Reste avec nous.
Clair, non. Il y a eu quelques accrochages.
Bon, qu'est-ce que c'est que ça?
Denis. Genre, c'est le chef. Denis, pas toi.
Qu'est-ce que tu cherches, Denis?
Qu'est-ce que t'avais avalé?
J'ai l'ai dit hier au Moscato Show. Je me rends compte que Denis rigole, rifane, bien sûr, comme son copain Moscato. Je suis un petit petit peu malade. Donc, je voilà. m'accroche pour faire sa l'antenne et monsieur ouais. arrive comme ça.
Non, voilà. il est 10h14.
Je suis taquin, là, tu sais très bien.
C'est admirable. Ouais.
J'attends ta moindre saucisse, Denis.
Voilà, le verbe riffané a été balancé à l'antenne. Le rugby doit-il faire sa révolution? Voilà, avec tout ce qui s'est passé cette semaine, Wilfried vient nous en parler. C'est vrai qu'on sent qu'il y a plein de sujets qui tendent à remettre en cause peut-être le système rugby comme on le connaît actuellement. Tiens, bah, vous partez de derrière pour l'instant dans le sondage. Un petit point. Fred, le rugby doit faire sa révolution?
Alors, sa révolution, je ne sais pas, mais moi, son évolution. Ah la révolution, quand on entend le R360, évidemment que moi, ça me fait peur. Parce que je me dis, du rugby à Miami, moi, ça, je ne vois pas du tout l'intérêt. Moi, j'ai l'impression quand même que le rugby surperforme déjà en France, fait des statistiques incroyables quand ils sont diffusés à la télé. C'est des chiffres monstrueux. Et je n'ai pas l'impression qu'on soit capable de faire beaucoup mieux par rapport à ça. Mais quand je vois les budgets, quand je vois les problèmes financiers que peuvent avoir les équipes du top 14, je me dis, il faut une évolution, il faut trouver une autre solution pour gagner plus d'argent, parce que quand t'as autant de déficits dans les clubs du top 14, c'est qu'il y a un problème de fond, donc il faut essayer de changer ça et trouver d'autres solutions. Et moi, je comprends Dupont. La carrière est courte. C'est une icône. Et il peut pas gérer comme il le veut. Moi, je viens d'un sport comme la NBA où concrètement les joueurs et les propriétaires se partagent 50% chacun des revenus. Donc à un moment, je pense que valoriser les joueurs qui font le spectacle, qui sont les acteurs de ce sport et qui font que justement c'est autant regardé, je trouve ça magnifique. Mais délocaliser et de se dire que ce sport qui est pratiqué pratiquement uniquement que dans le Sud-Ouest et qui compte seulement 10 nations ou à peu près qui jouent dans le monde et 4 qui peuvent gagner une Coupe du Monde, ben je me dis que les performances sont quand même assez fantastiques. Donc ça serait dommage de casser cet ancrage régional et cet ancrage du rugby. Mais en même temps, je comprends que les joueurs aient envie de gagner plus d'argent.
Il n'y a pas que le Sud-Ouest, hein, il y a aussi Paris, Lyon.
Oui. Il n'y a pas que le Sud-Ouest, mais on regarde quand même le découpage. Il y a quand même beaucoup de clubs dans le Sud-Ouest et un peu moins ailleurs.
Non, mais en tout cas, l'argument de Fred, c'est de dire que
les licenciés sont dans l'Île-de-France.
Peut-être pas les projets comme ils sont présentés comme cela, mais il faut qu'il y ait peut-être une réflexion sur le modèle rugby. C'est aussi ton avis, Fred Le Canu.
Oui, moi je pense que là où il peut y avoir révolution pour le rugby, c'est ce que Fred dit très justement, c'est dans cette capacité à le développer partout dans le monde. Il y a encore des espaces qui ne sont pas développés. Et là où je suis d'accord sur la volonté d'activer les choses, moi, je te prends l'exemple du judo, par exemple. On a beaucoup de pays, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, qui sont énormément développés cette année, enfin ces dernières années, pour amener des équipes compétitives avec des budgets dédiés, en s'appuyant notamment sur des pays annexes pour se développer. Ça, c'est un autre débat. Mais là où je suis un peu surpris, c'est qu'on va aller chercher des budgets dans des pays qui pourraient développer leurs propres équipes nationales ou développer leur structure au niveau national pour être dans le giron de... Bah, tu vois, aujourd'hui, là, on parle des Émirats Arabes Unis comme potentiel financeur. La révolution, ça serait qu'aujourd'hui, ces équipes-là existent dans un rendez-vous mondial. Ouais, c'est pas leur culture, mais ça serait ça la révolution. La révolution pour moi, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire à amener de l'argent pour activer des gens qui sont déjà à très haut niveau? C'est sûr que ça va amener quelque chose, ça va amener une visibilité, mais ça va pas développer la pratique du rugby dans des pays où il y en a pas. Moi, la révolution, ça serait la capacité de le développer partout dans le monde. Or là où je suis mitigé sur le projet, c'est que regarde, Denis, il a déjà été contacté il y a quelques années par ces idées là de développer des ligues, et puis finalement tu sais pas trop d'où vient l'argent, comment c'est financé, et puis finalement ça a pas abouti. Donc,
mais non, mais pour moi ce sont des mercenaires.
Toi tu dis il faut pas faire de révolution.
Mais parce que ce sont des mercenaires, c'est des gens qui sont là pour l'argent, ils sont là pour faire de l'argent, pour vendre un produit. Comme à l'américaine.
Là, c'est part de la Super League. Hein,
c'est pas notre culture. Ils vont chercher des sous chez les Émirats pour monter un préfabriqué de rugby dans le monde en faisant des franchises à Lisbonne où c'est pas notre culture. À Madrid non plus. Je veux dire, alors je veux bien qu'on développe le rugby, mais pas en faisant du rugby un vrai cirque. Un vrai cirque, pour moi, c'est du cirque, c'est pas du sport, c'est du spectacle, on va dire. C'est du spectacle à l'américaine, c'est un show, en fait, quand tu fais des franchises comme ça. C'est pas notre culture dans le rugby. On est dans les ancrages, nous. Dans les ancrages de...
Mais du coup, il faut pas évoluer du tout.
Je dis qu'il faut pas évoluer. Ouais. Je dis que ça, pour moi, c'est contre la...
Pas ça, en tout cas.
C'est dénaturer le rugby, déjà. Pour moi, c'est l'inverse. Alors après, sur le salary cap, on en parlait, c'est autre chose. Pour moi, c'est un autre débat, le salary cap. Parce qu'Antoine, il a entièrement raison. Après, il va y avoir forcément des les ajustements qui vont intervenir, qui vont arriver. On peut pas en priver le joueur aujourd'hui, alors que le joueur fait le spectacle, fait le monde, fait venir le monde dans les stades, et est privé de en même temps de recettes publicitaires qui devraient lui revenir.
Le modèle doit évoluer, en tout cas peut-être sur ce sujet-là.
Ah, moi, je le crois,
sur les caps. Simon, toi t'es dans la team de Denis.
Oui,
pas touché au rugby.
Ben non, mais il est sympa, Mike Tindall, mais évidemment, il doit prendre un chèque énorme, évidemment.
C'est sur la Super League.
Et Wilfried l'a rappelé, il a cité même des villes aux États-Unis, il a cité des stades dans lesquels il n'y a jamais un match de rugby qui se déroule, rêver d'un universalisme pour le rugby comparable à celui du foot ou du soccer, basket, comme on l'appelle.
Du basket.
Ouais, mais même, moi, j'ai aucun problème, hein, tu sais. Je suis
pas aussi aigri
que toi, tu sais. Mais sans me vautrer dans les clichés absolument abjects relayés par Fred Weiss sur ce côté sport de pecno, sport de bouffeux.
C'est pas du tout ce que je dis.
C'est exactement ça.
À aucun moment.
C'est ce qu'il dit en off.
Tu nous as dit il y a que dans le sud-ouest qu'on joue au rugby. J'ai dit principalement dans le sud-ouest. Je suis désolé, il suffit de regarder.
Alors, le grand sud-ouest.
Merci pour le cliché, merci pour Toulon, merci pour Lyon, merci pour les clubs parisiens.
C'est pour ça
tous les gens qui adorent ce sport, mais là où je rejoins Denis, c'est qu'il y a malgré tout un ancrage et culturellement, en effet, le rugby se pratique dans certains endroits du monde et dans certains pays. Et t'as tendance à te dire qu'il y a des endroits où ça prendra pas, où ça prendra jamais.
Ça prendra jamais.
Et
c'est quoi les États-Unis, hein?
C'est bon,
les
États-Unis.
Ça marche pas. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que regarde, aujourd'hui, le Japon, par exemple, c'est une bonne équipe de rugby?
Non.
Eh ben, ils peuvent le devenir.
Ben, ils sont un peu devenus, quand
ils sont devenus. Mais non.
Moi, je partage pas
ton avis.
C'est un mauvais exemple.
Ils aiment le rugby.
Le Japon, par exemple.
Ils ont fait un quartier de la Coupe du Monde.
Ça m'a permis de plus regarder le rugby.
Oui, mais regarde.
Parce que tu parles de culture. Moi, ma discipline, elle est d'origine japonaise. Quand j'ai vu des Japonais en rugby, ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, ça s'ouvre à quelque chose. Et peut-être qu'ils seront jamais champions, mais en tout cas, ils sont pas mauvais.
Non, mais c'était génial. Oui, l'ouverture sur le Japon, je suis d'accord avec toi.
Et ben, ce matin, moi, ce que je veux te dire par rapport à cette Ligue Pro, moi, d'une Ligue Pro pour faire que du business et que du spectacle, je ne suis pas d'accord. Par contre, si ça permet de développer en local des choses pour que les équipes
s'y créent... Mais ça ne
permet pas, là. C'est pour ça que ce projet-là, pour moi, n'est pas bon. Par contre, qu'on puisse se développer pour que derrière, il y ait du développement local, oui.
Chef Templier, prends la parole.
Fred, il y a un championnat au Japon. Il y a une équipe nationale au Japon. Elle ne sera peut-être jamais championne du monde, mais il y a tellement d'équipes de foot nationales qui ne le seront jamais, et pourtant le foot existe dans ces pays. Ouais. Donc déjà il y a un sport implanté au Japon. Oui. On a du mal à le faire exister aux États-Unis parce que voilà, ils lancent des franchises mais ça a du mal à prendre. L'exemple du Japon, il existe, Fred.
Les États-Unis c'est culturel aussi, c'est logique, ils ont voulu se démarquer justement de l'Angleterre en créant le football américain, et c'est pas pour maintenant intégrer le rugby,
regarde le soccer aux États-Unis. C'est parti de très très loin.
Ouais, ça prend pas de fou non plus.
Mais ça prend pas, mais ça évolue aujourd'hui, t'as des stades pleins là-bas.
Ça ne représente rien en termes de sport aux États-Unis, ça représente pas.
Après ça correspond aussi au fait qu'il y a une grande communauté hispanophone qui est très
fou. Et puis je suis désolé, les garçons, vous avez qu'une vision avec les garçons justement, mais il y a aussi toute la dimension féminine. Aujourd'hui, on en sort là de la Coupe du Monde chez les filles. Avec des équipes très ancrées. L'Angleterre, tu t'avais le doute, toi, qui battent les Françaises? C'est très ancré.
Et là où tu as raison, c'est qu'il y a une star américaine qui fait un tabac là-bas, une joueuse de rugby de l'équipe des États-Unis.
Mmh. Ok.
Non, mais qui est une star aussi.
Et qui est une star qui arrive à développer.
Mais c'est
du coup, en gros, par les filles, peut-être que ça se développe un peu plus.
Peut-être qu'il y aura des équipes féminines d'américaines qui vont être très très fortes, ça va se développer. Non, mais c'est pas en fait. Là, on est mono matricé dans nos têtes de dire, voilà, les équipes de France, le rugby, le sud-ouest, il peut y avoir des ouvertures. Et en Afrique, je suis sûr qu'il y a des joueurs là. Si tu mets un vrai projet en place, ça peut être extraordinaire.
Tiens, on a Juan qui nous appelle au 32-16, fan de rugby. Salut Juan.
Oui, bonjour.
Salut Juan.
Mais surtout, joueur de foot et joueur de tennis.
Ouais.
Et en fait, je suis en train de voir que ils essaient de créer une super ligue comme l'a développé Florentino Pérez, a essayé de l'imposer. Et je trouve ça complètement hallucinant, inadmissible. Alors, on parle des calendriers surchargés, etc. Les joueurs seront aussi.
Non, mais les joueurs, il faudra qu'ils fassent un choix.
Ils pourront pas faire.
Ils pourront pas faire les deux, jouer sur les deux tableaux. Donc, le calendrier t'oublie. Ils vont prendre les 300 meilleurs joueurs, enfin, ou supposés meilleurs joueurs, et ils feront leur championnat.
Toi, ta crainte, elle est surtout sur le rugby amateur, je crois, Juan, non?
Bah, oui, quelque part, en fait, moi, je trouve que ça, indirectement, ça va jouer sur l'impact sur les jeunes, hein, sur le développement régional aussi.
L'ancrage régional, on est d'accord.
L'identité. Ah,
l'identité régionale. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de diluer un peu tout ça dans des pays où il n'y a pas l'esprit rugby, parce qu'en fait, le rugby, c'est vraiment un état d'esprit. Hein, quand on parle de rugby,
culturel,
au sud-ouest, il y a même, bon, il y a des clubs qui sont développés en région parisienne, c'est sûr, c'est très bien, mais tout ça, ça vient du sud-ouest au départ, hein, l'Angleterre, etc. Là, maintenant, développer ça sous une forme plus mondiale, c'est pour l'argent. Franchement, je pense que la passion des enfants va être un peu dilué.
Non, mais exactement, Juan, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, et je vais rebondir sur quelque chose de très intéressant qu'a dit Simon tout à l'heure. Non, mais est-ce que finalement la globalisation du rugby n'est pas une chimère? C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné, parce que là on va aller chercher des nouveaux marchés et tout ça, est-ce que le rugby n'a pas vocation à être comme le cricket, je sais pas, par exemple, qui est seulement un
cricket, mais c'est pas un problème en soi.
Ben non.
Faut laisser le rugby comme il est aujourd'hui.
C'est quoi, le rugby ne doit pas se voir
Mais c'est pas ça, doit pas être trop ambitieux. Comme dit très bien Simon, il y a des territoires, tu pourras pas t'imposer dans certaines certains pays, c'est évident. Mais on voit la difficulté aux États-Unis. Alors, ils ont mis une Coupe du monde, la prochaine sera aux États-Unis.
Voilà, la prochaine sera en Australie,
celle d'après en 31. Mais voilà, on n'a aucune assurance. On sait que les ligues sont plantées, les franchises américaines sont plantées. Eh, c'est pas leur culture.
Tu sais pas, peut-être que quand il y aura la Coupe du Monde aux États-Unis, il y aura des milliers de personnes à l'aéroport. Hey, Denis Charvet! Ouais. Parce que le rugby aura été ce sera développé de dingue. Et ils verront le chef Templier.
Non, ce sera pas la retraite en 31.
mais je serai là-bas.
Hyper sérieux. Si.
Toi aussi, tu seras à la retraite. Parce que vu comment t'es malade, là.
Wilfried, au commentaire de quel match ce week-end en tant que 14.
En plus, il commente. Castres Racing dans le Tarn, Fred, tu vois, dans le 81.
T'as pris la cortisone, voilà. Non, merci. Parce que ça, il va falloir.
Tous les matchs top 14, évidemment, à suivre sur RMC. Il y a notamment un alléchant UBB Lyon ce soir, demain soir, Bayonne Stade Toulousain.
Et cet après-midi, Montpellier-La Rochelle.
Montpellier-La Rochelle, évidemment. Attention. Donc, RMC, la radio du rugby, bien évidemment. Merci, Wilfried.